grammaire et esthétique.
Alors, ils se demandèrent en quoi consiste précisément le style. Et grâce à des auteurs indiqués par Dumouchel, ils apprirent le secret de tous ces genres. Comment on obtient le majestueux, le tempéré, le naïf, les tournures qui sont nobles, les mots qui sont bas. Chien se relève par dévorant, vomir ne s'emploie qu'au figuré, fièvre s'applique aux passions, vaillance est beau en vers. Si nous faisions des vers, dit Pécuchet. Plus tard, occupons-nous de la prose d'abord. On recommande formellement de choisir un classique pour se mouler sur lui, mais tous ont leurs dangers, et non seulement ils ont péché par le style, mais encore par la langue. Une telle assertion déconcerta Bouvard et Pécuchet, et ils se mirent à étudier la grammaire. Avons-nous dans notre idiome des articles définis et indéfinis, comme en latin ? Les uns pensent que oui, les autres pensent que non. Ils n'osèrent se décider. Le sujet s'accorde toujours avec le verbe, sauf les occasions où le sujet ne s'accorde pas. Nulle distinction autrefois entre l'adjectif verbal et le participe présent. Mais l'Académie en pose une peu commode à saisir. Ils furent bien aises d'apprendre que leur pronom s'emploie pour les personnes, mais aussi pour les choses, tandis que « ou » et « en » s'emploient pour les choses et quelquefois pour les personnes. Doit-on dire « cette femme a l'air bon ou l'air bonne ?»« Une bûche de bois sec ou de bois sèche ?»« Ne pas laisser de ou que de ?»« Une troupe de voleurs sur 20 ou sur 20 ?» Autre difficulté, autour et alentour, dont Racine et Boileau ne voyaient pas la différence. Imposé ou en imposé, synonyme chez Massillon et chez Voltaire. Croassé et coassé, confondu par La Fontaine, et qui pourtant savait reconnaître un corbeau d'une grenouille. Les grammairiens, il est vrai, sont en désaccord. Ceux-ci voyant une beauté ou cela découvre une faute. Ils admettent des principes dont ils repoussent les conséquences, proclament les conséquences dont ils refusent les principes, s'appuient sur la tradition, rejettent les maîtres et ont des raffinements bizarres. Ménagent au lieu de lentilles et cassonades, préfèrent nantilles et castonades. Bonne ours, gérarchie et non pas hiérarchie, et Monsieur Chapsal, les œils de la soupe. Pécuchet surtout fut ébahi par Génin. Comment ? Des hannetons vaudraient mieux que des hannetons, des haricots que des haricots. Et sous Louis XIV, on prononçait Roum et Monsieur de Loune pour Rome et Monsieur de Lyonne. Littré leur porta le coup de grâce en affirmant que jamais il n'y eut d'orthographe positive et qu'il ne saurait y en avoir. Ils en conclurent que la syntaxe est une fantaisie et la grammaire une illusion. En ce temps-là, d'ailleurs, une rhétorique nouvelle annonçait qu'il faut écrire comme on parle et que tout sera bien pourvu qu'on ait senti, observé. Comme ils avaient senti et croyaient avoir observé, ils se jugèrent capables d'écrire. Une pièce est gênante par l'étroitesse du cadre, mais le roman à plus de liberté. Pour en faire un, ils cherchèrent dans leurs souvenirs. Pécuchet se rappela un de ses chefs de bureau, un très vilain monsieur, et il ambitionnait de s'en venger par un livre. Bouvard avait connu à l'estaminet un vieux maître d'écriture ivrogne et misérable. Oh, rien ne serait drôle comme ce personnage. Au bout de la semaine, ils imaginèrent de fondre ces deux sujets en un seul, en demeurèrent là, passèrent au suivant. Une femme qui cause le malheur d'une famille, une femme, son mari et son amant, une femme qui serait vertueuse par défaut de conformation, un ambitieux, un mauvais prêtre, tâchaient de reliés à ces conceptions incertaines des choses fournies par leur mémoire, retranchées, ajoutées. Pécuchet était pour le sentiment et l'idée, Bouvard pour l'image et la couleur. Et ils commençaient à ne plus s'entendre, chacun s'étonnant que l'autre fût si borné. La science qu'on nomme esthétique trancherait peut-être leurs différends. Un ami de Dumouchel, professeur de philosophie, leur envoya une liste d'ouvrages sur la matière. Ils travaillaient à part et se communiquaient leurs réflexions. D'abord, qu'est-ce que le beau ? Pour Schelling, c'est l'infini s'exprimant par le fini. Pour Reid, une qualité occulte. Pour Jouffroy, un trait indécomposable. Pour Demestre, ce qui plaît à la vertu. Pour le père André, ce qui convient à la raison. Et il existe plusieurs sortes de beaux. Un beau dans les sciences, la géométrie est belle. Un beau dans les mœurs, on ne peut nier que la mort de Socrate ne soit belle. Un beau dans le règne animal, la beauté du chien consiste dans son odorat. Un cochon ne saurait être beau, vu ses habitudes immondes, un serpent non plus, car il éveille en nous des idées de bassesse. Les fleurs, les papillons, les oiseaux peuvent être beaux. Enfin, la condition première du beau, c'est l'unité dans la variété, voilà le principe. Cependant, dit Bouvard, deux yeux louches sont plus variés que deux yeux noirs et produisent moins bon effet, ordinairement. Ils abordèrent la question du sublime. Certains objets sont d'eux-mêmes sublimes. Le fracas d'un torrent, des ténèbres profondes, un arbre battu par la tempête, un caractère est beau quand il triomphe et sublime quand il lutte. Je comprends, dit Bouvard, le beau est le beau, et le sublime le très beau. Mais comment les distinguer ? Au moyen du tact, répondit Pécuchet. Et le tact, d'où vient-il ? Du goût. Qu'est-ce que le goût ? On le définit, un discernement spécial, un jugement rapide, l'avantage de distinguer certains rapports, enfin, le goût, c'est le goût. Et tout cela ne dit pas la manière d'en avoir. Il faut observer les bienséances. Mais les bienséances varient. Et si parfaite que soit une œuvre, elle ne sera pas toujours irréprochable. Il y a pourtant un beau indestructible, et dont nous ignorons les lois, car sa genèse est mystérieuse. Puisqu'une idée ne peut se traduire par toutes les formes, nous devons reconnaître des limites entre les arts, et dans chacun des arts, plusieurs genres. Mais des combinaisons surgissent, où le style de l'un entrera dans l'autre, sous peine de dévier du but, de ne pas être vrai. L'application trop exacte du vrai nuit à la beauté, et les préoccupations de la beauté empêchent le vrai. Cependant, sans idéal, pas de vrai. C'est pourquoi les types sont d'une réalité plus continue que les portraits. L'art, d'ailleurs, ne traite que la vraisemblance, mais la vraisemblance dépend de qui l'observe. Est une chose relative, passagère. Il se perdait ainsi dans les raisonnements. Bouvard, de moins en moins, croyait à l'esthétique. Si elle n'est pas une blague, sa rigueur se démontrera par des exemples. Or, écoute. Et il lut une note que lui avait demandé bien des recherches. Bonours accuse Tacite de n'avoir pas la simplicité que réclame l'histoire. Monsieur de Rose, un professeur, blâme Shakespeare pour son mélange du sérieux et du bouffon. Nisard, autre professeur, trouve qu'André Chénier est comme poète au-dessous du XVIIe siècle. Blair, anglais, déplore dans Virgile le tableau des harpies. Marmontel gémit sur les licences d'Homère. La Motte n'admet point l'immoralité de ses héros. Vida s'indigne de ses comparaisons. Enfin, tous les faiseurs de rhétorique, de poétique et d'esthétique me paraissent des imbéciles.
Oh, tu exagères, dit Pécuchet. Des doutes l'agitaient, car si les esprits médiocres, comme observe Longin, sont incapables de fautes, les fautes appartiennent au maître et on devra les admirer. Ah, oh, c'est trop fort! Cependant, les maîtres sont les maîtres. Il aurait voulu faire s'accorder les doctrines avec les œuvres, les critiques et les poètes, saisir l'essence du beau. Et ces questions le travaillèrent tellement que sa bile en fut remuée. Il y gagna une jaunisse. Elle était à son plus haut période quand Marianne, la cuisinière de Madame Bordin, va demander à Bouvard un rendez-vous pour sa maîtresse. La veuve n'avait pas reparu depuis la séance dramatique. Était-ce une avance? Mais pourquoi l'intermédiaire de Marianne? Et pendant toute la nuit, l'imagination de Bouvard s'égara. Le lendemain, vers 2 heures, il se promenait dans le corridor et regardait de temps à autre par la fenêtre. Un coup de sonnette retentit, c'était le notaire. Il traversa la cour, monta l'escalier, se mit dans le fauteuil, et les premières politesses échangées, dit que là d'attendre Madame Bordin, il avait pris les devants. Elle désirait lui acheter les écales. Bouvard sentit comme un refroidissement et passa dans la chambre de Pécuchet. Pécuchet ne sut que répondre, il était soucieux. Monsieur Vaucourbeil devant venir tout à l'heure. Enfin, elle arriva. Son retard s'expliquait par l'importance de sa toilette, un cachemire, un chapeau, des gants glacés, la tenue qui sied aux occasions sérieuses. Après beaucoup d'embâges, elle demanda si 1000 écus ne seraient pas suffisants. Un acre? 1000 écus? Oh, jamais! Elle cligna ses paupières. Ah, pour moi. Et tous les trois restaient silencieux. Monsieur de Faverge entra. Il tenait sous le bras, comme un avoué, une serviette de maroquin. Et, en la posant sur la table, ce sont des brochures. Elles ont trait à la réforme. Question brûlante, mais voici une chose qui vous appartient sans doute. Et il tendit à Bouvard le second volume des Mémoires du Diable. Mélie, tout à l'heure, le lisait dans la cuisine. Et comme on doit surveiller les mœurs de ces gens-là, il avait cru bien faire en confisquant le livre. Bouvard l'avait prêté à sa servante. On causa des romans. Madame Bordin les aimait quand ils n'étaient pas lugubres. « Les écrivains, dit M. Faverge, nous peignent la vie sous des couleurs flatteuses. »« Il faut peindre, objecta Bouvard. »« Alors on n'a plus qu'à suivre l'exemple. » Ben, il ne s'agit pas d'exemple. Au moins, conviendriez-vous qu'ils peuvent tomber entre les mains d'une jeune fille? Moi, j'en ai une. Charmante, dit le notaire en prenant la figure qu'il avait les jours de contrat de mariage. Eh bien, à cause d'elle, ou plutôt des personnes qui l'entourent, je les prohibe dans ma maison. Car le peuple, cher monsieur, qu'a-t-il fait, le peuple? Dit Vaucorbeil, paraissant tout à coup sur le seuil. Pécuchet, qui avait reconnu sa voix, vint se mêler à la compagnie. Je soutiens, reprit le comte, qu'il faut écarter de lui certaines lectures. Vaucorbeil répliqua. Vous n'êtes donc pas pour l'instruction? Si fait, permettez. Mais, quand tous les jours, dit Maresco, on attaque le gouvernement. Mais où est le mal? Et le gentilhomme et le médecin se mirent à dénigrer Louis-Philippe, rappelant l'affaire Pritchard, les lois de septembre contre la liberté de la presse. Et celle du théâtre, ajouta Pécuchet. Maresco n'y tenait plus. Il va trop loin, votre théâtre. Ah, pour cela, je vous l'accorde, dit le comte, des pièces qui exalte le suicide. Le suicide est beau, témoin Caton, objecta Pécuchet. Sans répondre à l'argument, M. de Faverge stigmatisa ses œuvres où l'on bafoue les choses les plus saintes, la famille, la propriété, le mariage. Eh bien, et Molière, dit Bouvard, Maresco, homme de goût, riposta que Molière ne passerait plus, et d'ailleurs était un peu surfait.
Enfin, dit le comte, Victor Hugo a été sans pitié, oui, sans pitié, pour Marie-Antoinette, entraînant sur la claie le type de la reine dans le personnage de Marie Tudor. Comment ? S'écria Bouvard. Moi, auteur, je n'ai pas le droit. Non, monsieur, vous n'avez pas le droit de nous montrer le crime sans mettre à côté un correctif, sans nous offrir une leçon. Vos corbeilles trouvaient aussi que l'art devait avoir un but visé à l'amélioration des masses. Chantez-nous la science, nos découvertes, le patriotisme, il admirait Casimir de la Vigne. Madame Bordin inventa le marquis de Foudras. Le notaire reprit. Mais la langue, y pensez-vous ?
La langue, comment ?
On vous parle du style, cria Pécuchet. Trouvez-vous ces ouvrages bien écrits ?
Sans doute, fort intéressant.
Il leva les épaules et elle rougit sous l'impertinence. Plusieurs fois, Madame Bordin avait tâché de revenir à son affaire. Il était trop tard pour la conclure. Elle sortit au bras de Maresco.
Le comte distribua ses pamphlets en recommandant de les propager. Pocorbeil allait partir quand Pécuchet l'arrêta. « Vous m'oubliez, docteur ?» Sa mine jaune était lamentable, avec ses moustaches et ses cheveux noirs qui pendaient sous un foulard mal attaché. « Purgez-vous !» dit le médecin, et lui donnant deux petites claques comme à un enfant. « Trop de nerfs ! Trop artiste !» Cette familiarité lui fit plaisir. Elle le rassurait, et dès qu'ils furent seuls, « Tu crois que c'est pas sérieux ?»«
Non, bien sûr. »
Ils résumèrent ce qu'ils venaient d'entendre. La moralité de l'art se renferme pour chacun dans le côté qui flatte ses intérêts. On n'aime pas la littérature. Ensuite, ils feuilletèrent les imprimés du comte. Tous réclamaient le suffrage universel.
« Il me semble, dit Pétruchet, que... nous aurons bientôt du grabuge,
car il voyait tout en noir, peut-être à cause de sa jaunisse.